Voilà. Donc, j'ai retenu aussi le gars qui n'a retenu qu'une seule phrase. En fait, c'est faux. Mais Audrey Bénavent, quand même, avec cette poésie, on s'en est même pas rendu compte quand elle nous a dit « Mon mari et moi, on s'aime ». Je trouve ça très, très beau. C'était... Et dans ce monde de bruit, ça ne peut pas faire de mal, cher Audrey. Voilà. Alors, exemple étranger. Caroline Gagnon, on y va. Présidente de la Guilde des herboristes du Québec. On ne remerciera jamais assez Samuel Champlain, qui au XVIe siècle est parti de Brouage, qui était à l'époque capitale du sel en Charente-Maritime. Bon, ça, de ceux qui connaissent, c'est très très beau, Brouage. Maintenant, c'est complètement, c'est envasé. Et donc, il est parti là-bas. Et s'est posé sur un endroit ici. Ah, c'est pas mal du tout. Et ça a été donc le Québec. Et c'est pour ça aussi que, non pas que vous êtes avec nous, mais pour nous expliquer effectivement comment ça se passe. Alors, nous, on parle de monopole. Comment ça se passe chez vous? Voilà. Donc, je vous en prie, donc, Caroline Gagnon. Oui, ouais, ça fonctionne.
OK, voilà. OK, c'est bon. En fait, j'aimerais commencer par remercier Joël et Fanny pour l'invitation et tout le travail.
Parce que la date a été construite autour de vous, hein, c'est ce que j'ai compris.
Je suis honorée. Je suis vraiment contente d'être ici puis pouvoir partager notre expérience. Avec ma consœur, on a commencé à en parler un peu ce matin. Nous, au Québec, on utilise beaucoup le terme « rabouté ». C'est très commun.
Très bien, rabouté.
Et c'est vraiment ça. Donc, à vous entendre, en fait, j'ai une petite migraine. C'est peut-être pour d'autres raisons, mais je ferai un appel à tous. Si quelqu'un a de la menthe poivrée, j'aimerais l'avoir là. J'ai vraiment mal à la tête. Et ou quelques gouttes de grande camomille et ou quelques gouttes d'acté noir, ça serait... apprécié.
Ça, voilà. Le message donc qui est passé.
Moi, j'adore être française. Excellent. J'aimerais aussi spécifier qu'avant Samuel Champlain, il y a eu pendant des centaines de milliers d'années, dizaines de milliers d'années, des peuples en Amérique et leur pharmacopée, elle est extraordinaire. Et en fait, les Québécois sont vivants grâce à eux et c'est important de les honorer.
Alors, le modèle des herboristes, comment il est chez vous? Parce que là, il est libre. Donc...
Ben, en fait, je suis vraiment attristée depuis que je suis en France d'entendre à quel point c'est compliqué. C'est vraiment les 12 travaux d'Astérix que vous vivez, en plus d'avoir un épée et j'entends la lourdeur, la terreur, la peur, la résilience, la révolution, la résistance, vive la France quand même, là, et les Français herboristes. J'écoutais Madame Lee et je me disais, mon Dieu, le Canada a presque toutes les solutions à votre réglementation. Justement, vous parliez de l'autre case. Donc, la Guilde des herboristes est née en 97, justement, quand Santé Canada a décidé de réglementer les plantes et voulait les mettre dans la case du médicament. Et on est descendu dans la rue, et quelques herboristes du Québec, petit groupe, mais pour vraiment revendiquer que les plantes ne sont pas des médicaments. Et en fait, Santé Canada a été, je ne sais pas si vous m'entendez assez bien, ou je ne sais pas si...
C'est bon, là, si vous vous rapprochez un peu,
c'est pas de problème. Relevez A.
Ouais,
Hello, ça va?
C'est bon.
Parfait. J'aimerais vraiment souligner à quel point Santé Canada a travaillé de concert avec les herboristes. Et on a appris, parce que c'est pas évident quand on est législateur ou quand on est quelque part dans une tour et qu'on doit légiférer la réalité de quelqu'un qui fait de la récolte en sauvage ou non, en sauvage, on veut pas ça, hein? On veut que quelqu'un fasse de la récolte éthique, mais ils nous ont vraiment écoutés et la législation s'est transformée pour s'adapter à notre réalité. Alors, les plantes médicinales ne sont pas classées dans les aliments ni dans la médication. Et ça a tout changé. Et aussi, même après des années, là, on est en mouture avec Santé Canada d'une nouvelle législation. Et ce que j'entends aujourd'hui me fait peur, parce qu'on dirait qu'ils commencent à vous regarder un peu trop. Et donc, je comprends leur démarche maintenant un peu mieux, et ça n'a aucun sens. Alors, on va aller leur parler un petit peu plus. J'aimerais dire que La base, en fait, ce que je trouve aberrant, c'est que vous légiférez sur l'usage et non pas le produit ou la substance, ce qui fait des aberrations de Millepertuis qui a différentes réglementations selon son solvant, selon la personne qui le recommande. Et ça, c'est ça. Donc, de réglementer le produit, c'est là qu'on peut regarder sur le risque-bénéfice réel, le ratio risque-bénéfice, et les plantes ont un ratio risque-bénéfice exceptionnel, fantastique. En fait, lors de mes rencontres avec les gens qui sont en train de faire la prochaine mouture de réglementation face aux produits de santé naturels, ils me disaient: les plantes ont démontré leur innocuité. En fait, les plantes qui sont pas, ben, nous, on vend pas de la datura là en magasin. La sécurité, la toxicité des plantes, c'est face au dosage qu'un herboriste ou qui est sur l'étiquetage est vraiment impressionnant.
Alors, je suis chez vous. Est-ce que je peux me déclarer herboriste? Qui va effectivement contrôler?
Personne.
Ah, d'accord. Non, parce que je veux dire qu'il y a aussi quand même le risque d'avoir un bon nombre de charlatans partout, quel que soit le
gens expérimentés. Oui, mais dans la médecine aussi, donc... il y a des mauvais médecins.
Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
Il y a des excellents médecins. Je l'entends.
Mais on a quand même envie de savoir, si vous voulez, donc, qui appartient à cette guilde, quel est le rôle de votre guilde par rapport donc à ces herboristes.
J'aimerais juste, par rapport à ça, on parle produit-usage. Mais aussi, c'est comme si le fait qu'on parle de santé, c'est... Il y a un danger imminent de parler que, il y a quelqu'un qui a une otite, on pourrait recommander quelque chose, comme si juste le fait qu'il y a une interaction avec un humain et un autre humain qui a un problème de santé, ça mène à un danger quelconque. C'est pas le cas. Donc, la réglementation que moi je vois et que Santé Canada essaie d'imposer chez nous, c'est beaucoup relié à la logique du produit pharmaceutique qui est potentiellement dangereux. La majorité des produits pharmaceutiques ont une fenêtre thérapeutique beaucoup plus étroite que les plantes médicinales. Surtout les plantes médicinales en tisane. Surtout les plantes médicinales, le plantain, la quantité de tisane de plantain qu'il faut prendre pour avoir un effet nocif, la personne, elle va le vomir, le plantain, avant. Donc, on a comme un auto-régulateur physiologique qui nous protège. Donc, c'est ça aussi, c'est de donner l'exclusivité et la dame qui est avocate, je suis vraiment pas bonne avec les noms. Voilà, oui, disait, c'est ça, au Québec, on n'a pas le droit de poser de diagnostic si nous ne sommes pas médecins. Mais on peut recommander des choses, on peut accompagner les gens dans une démarche de santé, en prévention, mais aussi lorsqu'ils sont malades, parce que c'est là que l'herboristerie, elle est si fantastique. C'est là où la médecine atteint sa limite, et là, l'herboriste et les plantes médicinales peuvent travailler avec les médecins, les pharmaciens, les oncologues, les sages-femmes, tous les professionnels de la santé, pour amener une autre lunette, une autre approche qui est vraiment efficace, et on le voit cliniquement. Et je veux juste aussi dire que chez nous, c'est beaucoup plus permissif. Les gens ont le droit de prendre des plantes, les gens ont le droit de recommander des plantes aux gens, et les gens, ils meurent pas de ça. Les gens, ils sont plus en santé. Et c'est plus sécuritaire parce que les gens ont de l'information pertinente qui est donnée par des experts.
Et alors, qu'est-ce qui... Et c'est là, effectivement, qu'on y est. Donc, sur l'information donc, donnée par les experts. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, donc, des médecins, des oncologues, des herboristes, des pharmaciens, etc., travaillent vraiment ensemble.
Oui.
C'est-à-dire que
pas tous les médecins, pas tous les pharmaciens.
Non, bien sûr que non.
Il y a vraiment une ouverture partout dans le monde, en fait. Et au lieu de le dire complémentaire, parce que c'est comme s'il y avait juste une bonne médecine, puis ensuite, peut-être qu'on va prendre des petits à côté. Ce qu'on appelle, c'est une médecine intégrative. Parce que peut-être qu'avant de commencer à prendre des bêta-bloquants, on pourrait prendre de la prunelle, de l'aubépine, ou d'autres, l'olivier que vous avez ici, qui est bonne pour l'hypertension, et que si, parce qu'il n'y a aucun effet secondaire avec ces plantes-là, et que si ça ne fonctionne pas, on commence à prendre une médication qui peut apporter d'autres problématiques. Donc, l'approche intégrative, c'est où toutes ces lunettes-là sont nécessaires pour nous, pour notre santé, pour notre bien-être.
Alors, le statut des plantes est aussi, évidemment, tout à fait différent. Ça, on l'a bien compris.
Hein. Oui. Donc, il y a sa case, en fait. C'est ça. Il y a sa case unique. Et là, il y a beaucoup... on peut mettre certaines allégations. Lorsqu'il y a des allégations, il doit y avoir les contre-indications. Il doit y avoir la posologie. Il doit y avoir le contenu aussi. Le contenu dans le ratio, dans la partie de la plante, le nom latin de la plante, mais aussi si celle-ci est utilisée fraîche ou sèche, parce qu'on le sait, au niveau phytochimique, il y a une différence. Et ça, même dans vos produits de compléments alimentaires, je ne trouve pas cette information-là. Et tout ça est inscrit, et pour pouvoir mettre sur le marché ça, il faut passer à travers le processus réglementaire avec Santé Canada. On est obligé de faire de la pharmacovigilance. Si quelqu'un a un problème avec notre produit, on remplit la fiche et il faut retester tous les produits. La plante, c'est ça qui est intéressant aussi. La plante, on n'a pas besoin de faire des analyses chromatographiques parce que c'est toutes les petites entreprises là qui font ces choses-là. Mais on peut soumettre à Santé Canada un herbier, leur indiquant, voici la vraie plante. Le sol est analysé pour pas qu'il y ait de métaux lourds, parce que comme Mélie Lotus expliquait, c'est de la semence à la mise en marché. Ça vient toute la même place. Et donc, si on assure la qualité du sol, de la semence et de la plante, il y a une sécurité au niveau de la contamination. Et ça, Santé Canada essaie de le rendre beaucoup plus accessible pour tous. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Ce qui est fantastique, après, et par la suite, c'est vendu dans des boutiques spécialisées de produits de santé naturelle ou en pharmacie ou par des boutiques spécialisées qui s'appellent les herboristeries. Et là, il y a du conseil sur place. On peut dire aux gens, oui, cette plante-là va vraiment vous aider pour votre insomnie. Et quelle est votre insomnie? Et je peux vous recommander une plante encore plus spécifique pour vous. Et ça, ça assure encore plus de sécurité, parce que la recommandation, elle est adéquate. Et l'auto-soin, donc les gens peuvent prendre leurs choses. Ça, c'est mon dispensaire, on appelle ça mon inventaire dans mon bureau de consultation. Alors, moi, j'ai accès à 200 plantes, quelques-unes que j'ai récoltées moi-même, d'autres que j'achète dans des aux États-Unis ou ailleurs parce que je les cultive pas, ils poussent sauvages là. Et Santé Canada permet aux thérapeutes, sans passer par la réglementation, de dispenser, de donner ces remèdes-là et de faire nous-mêmes nos propres formulations. Parce que c'est vraiment cas par cas, on traite une personne et non une pathologie, et donc nos mélanges changent à chaque fois qu'on le donne. Ce qui est intéressant, ce que ça veut dire, c'est que Santé Canada nous considère comme les experts.
Oui, c'est ça. C'est un regard complètement différent. Là,
complètement. Oui. Mais ça fait du bien de l'entendre, hein, que ça se peut,
ben
non?
Oui, c'est ça,
exactement.
Et on aime votre rire, d'ailleurs.
L'autre chose aussi, et les producteurs vont aimer, c'est qu'ils considèrent aussi les producteurs de plantes multiplantes comme des experts. Et eux, s'ils vendent leurs produits directement de la ferme, ils n'ont pas à passer à travers la réglementation. Parce qu'ils peuvent. Et Mélie Lotus, je suis vraiment pas bonne en nom encore, je me souviens plus de la dame Audrey, c'est ça qui parlait de ça, Audrey. Elle disait qu'il y a de la... En fait, ils sont c'est pas l'audit, par les pères.
Oui, absolument. Ouais. C'était effectivement que ce sont leurs collègues, donc sont leurs pères qui viennent contrôler, on va dire, et donc, leur apporter des conseils aussi.
Et donc, quand on parle de charlatanisme, si un père voit une mauvaise pratique et sait que ça sort sur le marché, que les gens vont associer l'herboristerie à ça.
Ça touchera l'ensemble de la profession.
Exactement. Et donc, c'est important pour eux de réglementer ça. Ils connaissent aussi la qualité et la réalité aussi de ça.
Comment ça se passe chez vous, entre différents herboristes? Donc, là aussi, c'est
de l'auto-réglementation. Donc, à la Guilde des herboristes, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que la Guilde... je crois que c'est ce qui nous a donné notre levier politique, c'est l'association qui a eu le plus d'impact au niveau de la réglementation, parce qu'on a été capable d'expliquer la réalité des différents acteurs de l'herboristerie. Et donc, on a des thérapeutes, des chercheurs, des pharmaciens, des agriculteurs, des consommateurs qui sont membres de cette association-là. Et donc, quand on porte cette voix-là au niveau politique, bien, on porte la voix de tous ces acteurs-là et cette réalité-là. Et la Guilde des herboristes ne veut pas qu'il y ait un acte réservé ou qu'on s'approprie le terme herboriste, parce qu'on croit que c'est notre héritage collectif, que c'est à tous, que c'est à l'humanité, et que ça ne devrait pas être codifié ni dans un ordre professionnel. Et on mise sur l'auto-réglementation. C'est un pari.
On va faire un petit tour maintenant en Allemagne. C'était les 6000 kilomètres de tout à l'heure.
Je vais juste terminer. Il y a le produit par les producteurs, puis aussi autant les gros que les petits, qui est mis en marché, les thérapeutes, les herboristes thérapeutes. On essaie de pas se nommer naturopathe, mais de s'approprier le terme herboriste thérapeute, et les producteurs. Mais au-delà de ça, nous, on croit que c'est à tous, et donc il y a une démarche présentement avec le patrimoine vivant. Puis, j'ai pas eu l'occasion encore de parler beaucoup à Thierry, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut amener cette démarche-là pour que ça soit à tous et non pas, et peut-être sortir, vous aider à sortir tout ça de la réglementation aussi restrictive.
Merci, Caroline Gagnon. En vous écoutant, je me disais que cette notion, vous savez, de femme ou d'homme augmentée là, dans tous les sens, je sais bien que je la dévie un petit peu, mais ce sera vraiment le jour où, de nouveau, on se sera réunis, on fera avec la nature et on fera pas contre. Avec, évidemment, les précautions qu'il faut avoir, hein, on est bien d'accord. Kateri Jouveau, au départ, une femme qui est normande, mais une femme qui part en Allemagne. Qui part en Allemagne, qui est aujourd'hui naturopathe, qui est, elle, pratiqueur, donc on va voir ce que c'est exactement, donc diplômée en Allemagne, donc diplôme reconnu par l'État, le modèle allemand. On a vu quel était le modèle, donc québécois. Allez, on va chez vous maintenant. Comment ça se passe en Allemagne aussi, au niveau de l'herboristerie?
Un petit retour sur Hambourg pour ma part. Bonjour à toutes et à tous, merci. Merci de votre patience, votre écoute et de tous être actifs sur le sujet. Voilà, donc effectivement, j'ai vécu 12 ans à Hambourg et je me suis formée dans une école qui s'appelait Alchimia, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était axée sur la phytothérapie en partie, mais également sur la préparation à l'examen du diplôme de Heilpraktiker. Alors, ce diplôme est un diplôme d'État qui a été conçu le 17 février 1939, pour être précise, dans le but d'encadrer toutes les pratiques de médecine traditionnelle non conventionnelle.
Alors qu'en 1939, ils avaient que ça à faire, hein, en plus.
Oui, tout à fait. Hein, il s'est passé autre chose.
Cela dit, en 1941 aussi.
Voilà,
hein, donc,
c'est très drôle dans l'histoire, hein, voilà, ce qui s'est passé. Je trouve ça vraiment...
Il faut des moments un peu chocs.
Oui, voilà. Mais je trouve que ce soit bien qu'on est là pour ça. C'est formidable. Donc, effectivement... Le Heilpraktiker, alors je reprends aussi sa définition parce que on retrouve plein de choses sur Internet et c'est très gênant. Le Heilpraktiker n'est pas un guérisseur comme on le prétend en France. C'est un praticien de santé qui a accès à des soins, je parle bien de soins, de méthodes naturelles, alors complémentaires, voire même j'ajouterais intégratives parce que vraiment c'est le terme. Et il est considéré avec des droits et des devoirs dont je vais vous développer quelques points. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de définir qu'effectivement, il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui forment et qui ont leurs spécificités. Certaines sont axées vers la phytothérapie. D'autres, c'est l'homéopathie. Paracelsus, c'est une école affiliée complètement dans l'homéopathie. D'autres, c'est la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique, voire les techniques manuelles. Donc, le futur praticien va choisir une école pour aussi apprendre ses futurs outils de pratique. Voilà. Ensuite, il se présentera à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour déposer son dossier et être admis par candidature aux examens. Bon, alors c'est une épreuve assez complexe, écrite et orale, qui consiste à valider les acquis sur les connaissances cliniques du praticien. Voilà, pour vous donner une idée, moi j'ai fait, alors ça se chiffre en heures, peut-être que, voilà, 4 ans, donc 3160 heures de pathologie, d'anatomie, de physiologie, de cas cliniques. Alors, je vais peut-être heurter les oreilles sensibles, mais j'ai fait aussi du diagnostic différentiel. J'ai appris toutes les méthodologies d'auscultation, la lecture des bilans que je devais connaître par cœur, les pathologies infectieuses contagieuses à déclaration obligatoire en latin et tout le reste. Voilà, et ça, ça faisait partie de ma préparation, juste pour une chose, encadrer ma profession pour éviter toute dérive et tout danger pour la population. Point barre. Je ne suis pas un médecin. Je suis un high practitioner. Par contre, j'ai un devoir, celui d'utiliser toutes les méthodes naturelles accessibles, autorisées bien entendu, dont les plantes. Et là, c'est formidable parce que une fois qu'on a acquis ce diplôme, on va s'installer. Alors là aussi, il y a des critères très stricts sur les conditions d'hygiène et de sécurité. Un praticien high practitioner n'a pas le droit d'exercer en déplacement. Il est également, il n'a bien sûr pas le droit de faire des ordonnances médicales, de préconiser de l'allopathie. Donc tout ça est très réglementé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a accès aux plantes, à toutes les plantes de la pharmacopée donc allemande, sauf celles qui sont dites de la classe B, y compris en dilution homéopathique, ça il ne peut pas le préconiser. Et donc, il peut proposer des solutions, des remèdes, que ce soit sous forme de crème de soin, de cataplasme, etc. Et il va exercer le soin en cabinet. Cela dit, il n'a aucunement le droit de préparer quoi que ce soit. Voilà, ça n'est pas un préparateur. Il est dans une prescription de composition de plantes et c'est le pharmacien qui va se charger de tout cela, ou certains laboratoires spécialisés. Voilà, donc s'il propose un soin en cabinet, il va présenter le produit dans son emballage originel avec la traçabilité à la personne avant d'exercer ce soin. Et pour certaines techniques de soins, et là encore une fois je vais heurter les oreilles sensibles, notamment sur les injections parce qu'il a le droit de les faire, il va demander une autorisation auprès des autorités de santé et également auprès de son assurance professionnelle pour être couvert. Voilà, donc on a un spectre très large, mais avec une réglementation très stricte, ce qui cadre totalement les professions, à commencer par celui qui veut juste travailler, par exemple, dans l'énergétique ou la naturopathie, doit être high practitioner. Moi, j'ai voulu le faire parce qu'au départ, je m'étais formée à la réflexologie plantaire. Je ne pouvais pas exercer si je n'étais pas high practitioner. Donc, les résultats, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, je me suis tournée vers des fédérations qui sont très actives, actuellement, et on a des statistiques intéressantes sur justement les bienfaits préventifs, le coût réduit de la sécurité sociale sur des pathologies qu'on connaît tous, hein, à commencer par des dépressions qui n'en sont pas vraiment, voilà, des choses comme ça qu'on peut contrôler et qu'on peut accompagner de façon préventive. On a des statistiques très claires sur ce que ça nous éviterait en coût et en termes voilà, de santé. Actuellement, on a 47 000...
Comment ça s'organise, la complémentarité entre le high practitioner et je dirais, la médecine allemande, on va dire, traditionnelle?
Alors, c'est anecdotique, mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est mon médecin traitant qui m'a dit un jour, quand je suis allée le voir, qu'il pouvait me proposer un antifongique. Mais à la limite, il valait mieux voir une high practitionerine qui, elle, connaissait mieux l'histoire du terrain. Et c'est comme ça que j'ai découvert les high practitioners. C'est qu'en fait, la plupart des médecins travaillent avec les high practitioners en complémentarité. Évidemment, c'est ce qui a été dit aussi par Caroline, tous les médecins ne sont pas des fervents des high practitioners. Il y a toujours des polémiques. Et il y a aussi des high practitioners qui ne sont pas des high practitioners. Ça restera un peu le flou de l'histoire. C'est-à-dire, on sort d'une école qui nous forme à être high practitioners, ça ne suffit pas. Hein, c'est comme les high practitioners en France. Assurez-vous qu'il est vraiment le diplôme d'État. Parce qu'il n'y a que celui-là qui est valable aux yeux, en tout cas, de l'État fédéral allemand. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, il existe actuellement 47 000 high practitioners actifs. Référencement 2017, ça ne fait que croître. Des écoles qui sont très spécialisées, avec des cursus de formation variables, puisque vous pouvez avoir accès à une formation sur 2 ans. Mais j'ai essayé. Et c'est trop difficile, il faut, à moins que vous ayez voilà, un cursus médical ou paramédical acquis. Donc on a des biologistes, on a même des médecins qui se forment et qui vont devenir des médecins qui pratiquent la Naturheilkunde. Voilà, ça c'est un peu spécifique pour eux, c'est le médecin phytothérapeute, mais qui utilise aussi la nutrition et tout ce qui est du principe de l'hygiénisme. Voilà, on est très très formés, c'est une gymnastique de tous les jours à faire du diagnostic différentiel. Moi j'aime bien changer un petit peu ce terme pour revenir au principe hippocratique qui est celui de la recherche de causalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en France, donc après 5 ans d'études et ce diplôme, donc en 2002. Là, j'ai vraiment souffert, puisque je n'ai aucun droit de pratique en tant que Heilpraktiker, du moins comme le Heilpraktiker travaille en Allemagne. Hein, je respecte l'article L41661 qui, effectivement, parle de l'exercice illégal de la médecine, donc je n'ausculte pas. Je ne fais pas de diagnostic, je ne fais pas de prescription, tout ça m'est formellement interdit. Par contre, j'ai beaucoup de médecins qui me font confiance, avec lesquels je travaille en complémentarité. Voilà.
Parce que pour prendre des cas extrêmes, c'est-à-dire ce fléau qui fait 350 000 nouveaux cas par an, 150 000 morts, ça s'appelle le cancer. Est-ce que là-dessus, comment vous travaillez ?
Alors, effectivement, on peut parler d'une épidémie. Et les patients sont à bout, et donc effectivement, il y a un moment où ils ont besoin d'être soutenus dans leur fonction vitale. Hein. Donc, en ces termes-là, et dans la mesure d'impossible, on peut les accompagner en tant que naturopathe dans les principes de l'hygiénisme. Ça, c'est une chose, puisqu'on parle des forces vitales. Voilà, on va essayer de soutenir les émonctoires, donc tout ce qui peut permettre aux patients de bien vivre sa chimiothérapie, et parfois, il en a fait 60. D'accord. Donc, il ne s'agit pas non plus de supplémenter.
Vous le faites, pardonnez-moi, parce que là-dessus, Jean-Marie Pelt était très pharmacien. C'est vraiment un homme qui.
Oui, enfin, je l'ai rencontré. Vous connaissez
tous, donc voilà, 25 ans d'amitié derrière. Il a eu lui-même, si vous voulez, donc un cancer, et il disait qu'en aucun cas, que pendant son cancer, il n'aurait pris effectivement des plantes. En revanche, après, pour l'aider, pour nettoyer le corps, il dit c'était
alors voilà, je rejoins tout à fait ce qu'il dit, parce que pendant ces traitements-là, il faut éviter toute interaction. Et en vérité, on maîtrise pas grand-chose de ces interactions avec les plantes. On n'en a pas vraiment la connaissance. Certaines, oui, mais il vaut mieux éviter. En plus, dans la notion de chimiothérapie qui évolue en permanence, il y a des molécules qui nous dépassent complètement. Moi, je pense que oui, ce sont des interfaces.
Juste pour bien voir votre rôle, je prenais un cas extrême, parce qu'évidemment, que sur toute la prévention, vous êtes très très bonne. Enfin, il y a pas de soucis, mais même pour soigner d'autres choses.
Alors, je reprends aussi, si vous me permettez, l'idée que quand la personne vient pour du conseil, elle ne vient pas, et ça j'insiste, pour de l'allopathie verte. Parce que ça, c'est pas possible. Même en naturopathie, j'ai entendu les naturopathes, et tant mieux, je suis contente qu'il y en ait dans la salle aussi, parce qu'on est souvent attribué à cette étiquette, et des personnes se fourvoient en venant chez nous. On est sur un principe d'intégralité de la personne. C'est le principe holistique.
Hein.
Donc, à partir de là, l'approche est totalement différente et totalement intègre, voilà, et complémentaire. Voilà, je crois que... J'ai tout dit.
Il nous a fait de très belles ouvertures, hein, ça. Je pense que c'est pas mal du tout. 12, oui, alors, vous pouvez. Cher Fanny, nous sommes partis avec le quart d'heure normal dans les dents, facile. Alors, on va pas forcément faire un quart d'heure. Est-ce que vous avez deux questions? Allez, deux questions à poser à nos amis, on peut en prendre deux. Enfin, nous avons une, comme monsieur s'est déjà exprimé tout à l'heure, je l'ai là. Non, on ne sait jamais. Non, mais peut-être que ça va être vous. Peut-être que ça va être vous. Allez, on y va, puisque je vois que personne se...
Donc, toujours Samy Korkos.
Parlez plus fort.
Toujours Samy Korkos. Je n'ai pas changé de nom, prénom depuis tout à l'heure, et de profession. J'ai une question qui s'adresse à chacune d'entre vous. C'est quelles sont les modalités pour les patients d'éventuelles prises en charge et de remboursement? C'est-à-dire, à quel point... Enfin, est-ce que, bien qu'effectivement, vous ayez...
Sans la piger.
Non, mais je continue. C'est qu'effectivement, en France, on a une problématique de réglementation inadaptée, etc. Mais on a quand même aussi, si vous voulez, un conditionnement du service médical rendu, évalué, etc., qui permet de conditionner le remboursement. On cotise, on a un service public qui nous prend en charge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut défendre aussi. Il y a eu une phase où, bien sûr, le médicament... cette notion-là a largement été influencée par le lobby pharmaceutique, et on a eu des choses qui ont été remboursées qui ne rendaient pas de service médical rendu. Mais aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle phase où se confère un certain nombre de scandales qui font qu'il y a eu des refondes des institutions et aussi une prise de conscience de la part des thérapeutes, des pharmaciens, des usagers, etc. Et je pense qu'il est souhaitable que le service médical rendu par l'herboristerie et toutes les autres pratiques puissent s'inscrire dans ce service public. Ce serait vraiment souhaitable. Est-ce que vous avez aussi ça chez vous, et comment vous envisagez ce point?
Appuyez sur le voilà.
Oui, ça serait souhaitable. Aussi, je pense
c'est vrai qu'il n'y a pas de prise en charge.
Non, il n'y a pas de prise en charge, mais ce que je réalise aussi, c'est qu'en France, vous avez beaucoup plus de gratuité que nous
Alors, c'est pas de la gratuité, hein.
Non, non, oui, je comprends, parce qu'on paye avec.
Non, mais vu d'extérieur,
c'est. Mais nous, on paye aussi avec nos impôts probablement autant, et on n'a pas ce service. Et aussi, je dirais, donc les gens qui viennent nous voir, parce qu'ils ont vraiment des problématiques. Ou ils ont choisi de faire une démarche, ou sont allés, ou sont vraiment suivis avec le médecin. Ça, c'est pour lorsqu'on va payer une consultation, parce que le conseil en magasin, il est gratuit. Et les gens doivent juste se procurer leurs plantes. Et les herboristes ont les plantes en vrac et peuvent faire des mélanges aussi de plantes en vrac. Donc, on peut se souscrire à une assurance privée, donc on émet des reçus, et les gens, s'ils ont une assurance privée, la passent à travers leur assurance. Mais nous, on paye tout, là, notre dentiste, orthophoniste, et c'est très, très coûteux. Là. Donc, c'est de base, là, ce qui est gratuit au Canada.
Est-ce que vous avez des problèmes avec parfois que les interactions, ça vous mettez 5,
oui.
6 plantes,
oui.
On y va. Donc, oui. Et puis après, effectivement, les gens ne sont quand même pas très bien parce que.
Rarement, parce que vraiment, les gens sont très formés. Là. Les herboristes, c'est des gens très formés.
Non, mais le patient, il ne l'est pas, lui. C'est ça que je veux dire. Donc vous lui dites bien, par exemple,
oui.
Celle-là est,
oui,
compatible avec telle autre plante.
Ben, ça, c'est toute l'art de la formulation. Mais lorsqu'on formule, mais c'est surtout aussi dans la posologie, combien de temps que la personne doit le prendre, le dosage.
À quel moment.
À quel moment, exactement. Oui. Mais là où il y a le plus de danger d'interaction, c'est avec les médicaments. Il y avait un petit peu le danger, il est avec le médicament, il n'est pas avec la plante.
Donc vous interrogez aussi votre patient en face pour vous dire qu'est-ce que vous prenez,
oui,
comme médoc.
Oui, et on est formé pour naviguer à travers le méandre des interactions qui n'est pas plus compris, hein, par les pharmaciens ou les médecins. Hein. On est dans un monde spéculatif et on commence un peu à le comprendre un peu plus parce qu'on étudie la pharmacocinétique des plantes, mais oui, ça fait partie de notre... de ça. Et c'est pour ça que lorsque les gens prennent des médicaments, ça vaut la peine, encore une fois, d'aller voir un thérapeute parce que moi, je passe une heure et demie avec mes clients et la recherche d'interaction, c'est long. Et en magasin, ben, on n'a pas le temps de faire. Et parce que c'est gratuit aussi, le conseil.
Ben oui. Comme un homéopathe, ça prend du temps. Je vous en prie. Alors, Kateri aussi, peut-être même question aussi, d'abord prise en charge.
Alors, oui, pour répondre à la question, ben, il n'y en a pas par le biais de la sécurité sociale. Donc, c'est aux frais de la personne. Et c'est aussi par rapport à sa complémentaire, en fait. Qui peut être défrayée et sous facturation. Ça, c'est une chose. Je rajoute juste une petite chose, c'est que j'ai fait une expérience intéressante en pharmacie en France, puisque en rentrant d'Allemagne, j'ai été embauchée dans une grande pharmacie herboriste Midi-Pyrénées. Il s'avère qu'à Toulouse, on en a 3. C'est spectaculaire, avec les 500 plantes de la pharmacopée. Et donc, j'ai travaillé au comptoir. Alors, le mot-clé du pharmacien, c'était pas un mot sur la naturopathie et aucun conseil. Voilà. Et je me suis retrouvée avec toutes les préconisations de la région Midi-Pyrénées, alors sur recette, sur ordonnance pour certains médecins, mais aussi tout praticien et toute personne ayant lu une tisane à vouloir préparer venait au comptoir comme ça. Et j'ai vite vu les limites et les risques, malgré l'engouement et la sincérité de toutes les personnes qui sont venues demander les plantes. Ça suffit pas, la sincérité, il faut les connaissances. Ça, c'est une chose. En Allemagne, pour revenir sur ce thème, la différence entre un particulier qui vient au comptoir de la pharmacie demander une préparation, une tisane, c'est que le pharmacien ne va pas engager sa responsabilité du tout. Il va lui vendre chaque plante individuellement. Effectivement, c'est lui qui fera ça sur sa petite paillasse à la maison. Si la même personne vient avec une prescription d'un heilpraktiker, là, c'est le heilpraktiker qui engage sa responsabilité et le pharmacien respecte la posologie, la composition, la galénique qui lui est demandée. Voilà, ça c'est une différence que je pense est tout à fait importante. Et puis un dernier point que j'ai omis mais qui est important en cabinet, c'est que le heilpraktiker n'a pas le droit, alors, ni de produire, ni de récolter, ni de vendre ses plantes à usage professionnel. Et en cabinet, il n'a pas le droit de faire de mélange d'huile, par exemple, pour les massages, ou bien de tisane ou de teinture mère. Voilà, tout est fait sous couvert de la pharmacie ou des laboratoires. Voilà, merci.
Grand merci, Kateri Jouvaux. Merci à vous deux. Alors, comme je pense que vous avez besoin un peu de... À 12h08, on se le fait vite. Allez, on y va. pas vous frustrer totalement. Allons-y.
Merci. Donc, Sabrina, donc, enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie.
Oui.
Merci à vous deux pour vos présentations. Donc, des messages très prometteurs. C'est vrai que le statut de produit naturel de santé, moi, ma réflexion personnelle, je suis convaincue que c'est vers ce statut qu'on devrait aller en France. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Et donc, j'avais une question à Caroline concernant la formation. Donc, quel est le statut des écoles d'herboristerie au Canada? Le niveau d'études, des écoles privées, s'il y a une accréditation, s'il y a des liens avec les universités.
C'est bien, ça va vous faire une belle liaison pour cet après-midi, donc je vous en prie. Donc, le statut des écoles.
Donc, le statut des écoles, on peut émettre des reçus, donc avec, la pratique de l'herboristerie, c'est sous législation provinciale et non pas fédérale. Donc, ça diffère dans chaque province. Mais lorsque Santé Canada a mis en place sa réglementation ou commencé à mettre en place sa réglementation en 2004, toutes les associations d'herboristes à travers le Canada, donc une par province, c'est comme une association d'associations pour homologuer, en fait, la formation des herboristes à travers le Canada pour que ça soit un peu plus uniformisé, tout en gardant la diversité de pratiques, des visions et des écoles. Et ça, c'est super important pour nous parce qu'on croit que l'herboristerie, elle est résiliente comme tous les écosystèmes grâce à sa diversité. Donc, je vous encourage à garder une diversité aussi. Il y a une formation de base d'autour beaucoup moins exhaustive parce qu'on fait pas de manipulation, on n'a pas le droit de faire des manipulations, ni d'injection d'ailleurs. Donc ça tourne autour de 1500 heures de formation avec un tronc commun sur la physiologie, l'anatomie, l'interaction, la pathologie. Puis différentes écoles, mon école, j'ai une école d'herboristerie, va au-delà de ça, parce qu'on inclut aussi la médecine chinoise puis les bases de l'Ayurveda, parce que c'est une des façons qu'on contourne. On contourne pas le diagnostic, mais ça nous donne une lunette intéressante pour regarder de façon non-intrusive, donc en prenant le pouls, en regardant la langue, pour comprendre un peu le terrain un peu plus. C'était ça la question, est-ce que ça répond pour moi? Oui.
Merci.
Ah oui, le lien. Ah oui, il n'y a pas de lien avec les universités. Nous, on aimerait que ça reste comme ça parce que lorsqu'il y a une professionnalisation où ça rentre dans le carcan universitaire, il y a, comme ça s'est fait avec les sages-femmes, on serait sous la tutelle des médecins. Ça ne nous intéresse pas. On veut travailler de façon complémentaire ou de façon intégrative, mais la lunette, elle est tellement différente. C'est comme je dis souvent, l'herboristerie, c'est la permaculture de la médecine, même si c'est pas une médecine, mais c'est l'approche qui est comme à contre-courant de notre société présentement, mais vers quoi j'espère qu'on va tendre et pour préserver cette lunette qui est si holistique, pour l'instant, de la conserver dans des écoles privées, puis ce qui est fantastique, en parlant ce matin avec Catherine, c'est ça, en Allemagne, les écoles restent privées, il y a une grande diversité dans les approches, mais l'accréditation se fait en dehors des écoles, et c'est ce qui se passe avec la Guilde des herboristes. Nous, on accrédite les thérapeutes, peu importe l'école, même s'ils viennent d'une école de France ou d'Australie ou d'Angleterre, on en a de l'extérieur, il y a une accréditation puis une évaluation du parcours et des entrevues. C'est très exhaustif, c'est très long. Les différents chemins peuvent être accrédités. Mais on a des critères quand même assez précis. Et aussi un encadrement de la pratique aussi assez serré. Ouais.
Merci à vous deux. Alors, non. Maintenant, non. 12h13, non. C'est comme ça. Voilà. Oui, là, on était parti effectivement à 9h13 d'ailleurs. Donc c'est bien. Alors, on ne sera pas là donc à 14h pile, mais à 14h13. Vous serez donc là. Non, mais c'est vrai que par rapport à différents horaires, etc. et tout. Moi, j'ai une petite émission à faire aussi demain, donc voilà. Donc à 18h, on aura terminé, ou 18h13, mais ce sera ça. Donc on vous souhaite un très bon appétit. Prenez plein de compléments alimentaires pour bien vous sustenter. Et non, mais c'est de l'humour. Hein. Et donc à tout à l'heure. Donc l'accueil. Oui, l'accueil ce sera à 13h30. Je ne sais pas si vous entendez. L'accueil sera à partir de 13h30. Voilà.